pharisiens. En Jésus-Christ, il n'y a ni jeunes qui sont fans du jeûne 4 ou 5, ni vieux qui sont fans de l'Ausbund. En Jésus-Christ, il n'y a ni noir, ni blanc. En Jésus-Christ, il n'y a ni manuel, ni intellectuel. En Jésus-Christ, il n'y a ni ceux qui ont 3 voitures, ni ceux qui n'ont pas les moyens d'en avoir une. En fait, à chaque fois, il y a une remise en question de l'identité particulière, quand elle prend trop de place, quand elle crée des oppositions dans la relation avec l'autre terme du binôme. Donc, je crois qu'il y a une critique dans le nid, une critique des identités, surtout lorsqu'elles prennent trop de place et qu'elles s'opposent aux autres. Mais en fait, là aussi, nous risquons de mal comprendre, et nous risquons plutôt de comprendre le nid de la manière suivante, au sens où les différences ne sont pas importantes, l'important, ça serait Jésus-Christ et la relation que nous avons avec lui. Et donc, du coup, nous n'avons pas besoin de bouger dans nos identités. Nous dirions cela, je crois, assez volontiers. L'important, c'est la relation à Jésus-Christ, les identités particulières, les habits, les tendances, c'est pas important. Et donc, je peux rester comme je suis avec mon identité. Je pense que Paul va plus loin et qu'il y a une dimension critique envers les identités quand elles sont figées. Il y a une remise en question des identités. L'œuvre de salut de Jésus-Christ a un impact direct sur les identités particulières, culturelles, sociales, sur leur tendance à l'égoïsme et du coup à l'opposition contre d'autres identités. En Jésus-Christ, il n'y a donc ni juif, ni grec. Les oppositions, l'indifférence, voire la haine entre ces groupes culturels ne peuvent perdurer en Jésus-Christ. L'assimilation d'un groupe par l'autre n'est pas non plus possible. Le communautarisme non plus. On pourrait dire que le modèle de l'intégration se rapproche du vivre ensemble en Christ. Donc, identité conservée d'une part et valorisée, je vais y revenir plus tard, identité critiquée et relativisée d'autre part, et l'intégration plus en Christ qui donne une identité nouvelle. Ça m'a frappé tout à nouveau que dans le passage de Galates et dans son parallèle dans Colossiens 3, quand Paul parle de ses nids en Christ, à chaque fois, il utilise l'image du vêtement. Dans le passage de Colossiens et dans le passage de Galates. L'image du vêtement à enfiler. Et il dit par exemple, vous avez revêtu le Christ. Ou encore, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Et puis, pour rendre la chose plus concrète, dans Colossiens, il dit, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Puis encore, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Donc, devenir chrétien, être en Christ, cela demande d'enfiler une identité première, un habit par-dessus, plus important que les identités de départ, les identités particulières, qui du coup sont moins visibles si on a mis un par-dessus. Alors, l'intégration en Christ, l'intégration plus en Christ, voudrait-elle dire que juifs et païens, finalement, fusionnent totalement, qu'ils doivent se défaire de toute trace de leur culture d'origine, qu'il ne peut y avoir de distinction? En fait, non. Nous allons voir qu'il reste une place pour les identités particulières, mais secondaires. Et nous allons voir cela dans cette partie sur comment développer l'intégration dans l'Église, 5 stratégies selon le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas de recette toute faite sur l'organisation de l'Église, on n'a pas de recette toute faite non plus sur comment développer l'intégration dans l'Église. Mais on a quelques principes, quelques lignes directrices, comme pour plein d'autres thèmes, et moi je trouve ça absolument génial parce qu'on n'est pas démunis, on a des lignes directrices, mais en même temps le Seigneur nous confie la tâche par son esprit dégager à partir des principes, d'appliquer des solutions concrètes pour les différentes époques et les différents contextes. Première stratégie ou manière de faire pour développer l'intégration dans l'Église, la stratégie de l'accueil dans Romains 14, 15. Je ne lis pas les chapitres. On trouve là la problématique du vivre ensemble entre chrétiens juifs et chrétiens non-juifs dans l'Église de Rome à propos du fait de manger de la viande sacrifiée aux idoles d'alors. Sur le fond, Paul a une position claire. Il dit « on peut manger de tout ». Y compris la viande sacrifiée aux idoles. Ou encore, dans le Seigneur Jésus, rien n'est souillé en soi. Ou encore, tout est pur. Position théologique claire de Paul. À partir de ce principe, Paul appelle à l'accueil et au respect mutuel, aux forts qui se sentaient libres de consommer des viandes sacrifiées aux idoles, Paul leur dit que même si leur position théologique est juste, il leur demande de veiller à la qualité de leur relation avec les faibles et donc de mettre leur liberté en veilleuse, ce qui montrera qu'ils sont réellement libres. Et puis aux faibles, qui eux ne voulaient pas toucher de cette viande-là, Paul signale, en passant, que sur le fond et théologiquement, on peut manger de tout. Il le leur dit. Et faisant cela, je crois qu'il met du jeu dans leur position théologique restrictive pour qu'ils deviennent eux aussi plus libres. Paul résume l'attitude demandée aux forts et aux faibles, différente en fait, en disant « accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis » pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a sûrement des chrétiens qui ne supportent pas de manger de la viande halal. Et il y a sûrement des chrétiens pour qui ce n'est pas du tout un problème. Paul dirait, on peut manger de tout. Mais, il dirait aussi, on doit accueillir les tenants de l'autre position. Accueillir, c'est davantage qu'accepter l'existence de l'autre en étant juste indifférent à son existence. Accueillir, c'est ouvrir les bras. Comme le Christ qui a ouvert les bras. Ouvrir ses bras, car la relation avec les frères et sœurs, aux pratiques différentes, prime sur le reste. La relation prime sur le reste. Première manière d'aller vers plus d'intégration au sein de l'Église. Deuxième stratégie, la recherche d'un compromis dans Acte 15 au Concile de Jérusalem. Ça concerne encore l'accueil et l'intégration de croyants issus du paganisme. Et il y avait une divergence de fond très importante. La circoncision demandée par la loi de Moïse était-elle à exiger de ces païens convertis à Jésus pour qu'ils soient pleinement intégrés à l'Église ? À nouveau, le résultat du débat qui a eu lieu parvient à une position théologique claire. Pas de circoncision exigée pour être intégrée, mais des mesures pastorales de respect. Bref, on pourrait dire un compromis sur le fond, mais ce n'est pas de la compromission, et il nous faut faire la différence résolument. Un compromis avec une nouvelle compréhension de la foi en Jésus-Christ, plus élargie, plus universelle. Aujourd'hui, quand il y a divergence entre jeunes et âgés, entre noirs et blancs, entre tenants d'une spiritualité plus traditionnelle ou plus charismatique, je crois, et que ça pose problème, et qu'on veut aller vers plus d'intégration, je pense qu'il est bon de se réunir, de se parler et d'en parler. Comme dans Acte 15. Se réunir, soit dans une équipe de responsables, soit toute l'Église, mais se réunir. Mais, comme dans Acte 15, il y a peut-être quelques manières de faire qui sont préférables à d'autres quand on se réunit. Et donc, il y a peut-être des règles de jeu à se donner pour se parler quand les sujets deviennent chauds. Et pour s'écouter, peut-être aussi des manières de faire nouvelles. Et là, je pense à l'expérience qu'une partie d'entre vous a vécue lors de la formation décentralisée pour responsables d'église avec Madeleine Belair et la pratique des cercles de Samoa. Qui a vécu ça là, récemment? Oui, quelques-uns. C'est juste un exemple d'une manière de parler ensemble, respectueuse, où on peut s'écouter les uns les autres et se donner les moyens de parler de sujets compliqués et chauds. Voilà peut-être une piste parmi d'autres, mais il y en a d'autres à coup sûr. L'intégration des uns et des autres, en tout cas, passe par la parole et l'écoute. C'est une évidence de dire ça, mais je crois qu'il nous faut vraiment en être convaincus et puis du coup nous donner les moyens d'aller dans ce sens. L'intégration des différences dans nos églises passe par la parole et l'écoute, dans une attitude d'ouverture. On voit ça de manière merveilleuse dans l'acte 15, d'ouverture et de remise en question de soi. Le Saint-Esprit veut cela. Là, dans le récit de la Pentecôte, c'est très clair. Le Saint-Esprit veut rendre possible la communication, le fait d'entrer dans le point de vue de l'autre. J'ai commencé par cela tout à l'heure. Alors, quand on est dans cette attitude, on peut aller vers la recherche d'une solution, peut-être entre des tendances, entre des groupes sociaux, entre jeunes et moins jeunes, la recherche d'une solution ou d'une pratique qui semble bonne aux uns et aux autres et au Saint-Esprit, au moins pour un temps. Au moins pour un temps. Troisième stratégie, l'interpellation réciproque. Je pense ici à ce qu'on appelle les tables domestiques, ces séries d'impératifs adressés à des groupes de personnes par pair. Et je voudrais lire un exemple de ce genre de texte dans Colossiens 3, à partir du verset 18. Colossiens 3, verset 18. Donc, notez les pères, les groupes de personnes désignées par père. Femmes, soyez soumises à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ. Car celui qui agit injustement recueillera l'injustice qu'il a faite, il n'y a pas de partialité. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Il y a d'autres textes similaires dans le Nouveau Testament. Et puis, on trouve des textes ressemblants à l'époque du Nouveau Testament chez des philosophes stoïciens. Mais il y a deux différences entre les textes des philosophes stoïciens et les textes bibliques de ce type, qu'on appelle des tables domestiques. Deux différences. Première différence, dans les textes bibliques, il y a une interpellation aux deux groupes, aux deux pôles, à deux pôles concernés. Et chacun reçoit un impératif à pratiquer, quelque chose à faire, et pas seulement celui qui est en position de faiblesse dans la société, ce qui était le cas dans les textes stoïciens. On s'adressait que aux esclaves, rien pour les maîtres. La nouveauté de ce genre de texte, c'est d'interpeller les deux termes du binôme. Et là, il y a un principe très fort pour nous jusqu'à aujourd'hui. Les deux termes du binôme. Et puis, deuxième différence par rapport au texte des stoïciens, ce qui est demandé à chaque groupe exprime quelque chose de réaliste, de la nouveauté en Christ. Nouveauté en Christ, mais quelque chose de réaliste pour le groupe social en question. Chaque groupe, femme, homme, enfant, père, esclave, maître, chaque groupe doit moduler, modifier son comportement à cause de la nouveauté apportée par Jésus-Christ. Donc, ce qui est frappant ici, dans ces textes, c'est qu'il y a des identités qui subsistent, sociales, culturelles. Il y a des identités qui existent, puisque Paul s'adresse à des groupes identifiables, mais chaque groupe, plutôt chaque sous-groupe, doit tenir compte de l'autre. Et puis, il y a quelque chose dans l'identité, on pourrait dire naturelle du groupe, qui doit changer, qui doit bouger à cause du Christ. Aujourd'hui, ce principe de l'interpellation réciproque, donc pas juste de l'accueil par rapport au point 3.1, c'est pas juste de l'accueil. Il y a une interpellation réciproque. Ça me paraît capital aujourd'hui. Aux plus âgés, parfois crispés sur certaines pratiques, il faut demander de la souplesse. Aux plus jeunes, il faut oser demander de chercher à comprendre le pourquoi de certaines pratiques du passé. De même, aux Mennonites qui s'appellent Nussbaum-Schmidt ou Peter Stein, il faut demander d'arrêter le jeu Mennonite du nom de famille qui conduit à s'intéresser ou pas à telle personne, selon son nom propre, son nom de famille. Et puis aux nouveaux membres de nos assemblées, il faut demander au minimum de prendre connaissance des convictions théologiques des églises dans lesquelles ils se trouvent. Interpellation réciproque. Interpellation, plus qu'accueil, interpellation. Quatrième stratégie, la rencontre en profondeur. J'aimerais signaler le texte de Acte 10. Excusez-moi. Lisons quelques versets. C'est donc le texte de Pierre qui reçoit une vision d'animaux impurs et le Seigneur lui dit par trois fois « Tue et mange ». Il refuse, mais finalement, il accepte. Et ensuite, il se fait appeler et il se fait appeler par les envoyés de Corneille. Il va à la rencontre de Corneille, il se retrouve chez Corneille et il dit ceci au verset 34 du chapitre 10. Alors Pierre prit la parole. « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth. » Je saute. « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. » Je vais un peu plus loin. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Jusque-là. Pierre le convertit à Jésus, rencontre donc Corneille, un centurion romain, un sympathisant du judaïsme, et au départ, on pourrait dire qu'entre ces deux-là, on est plutôt dans une situation de ségrégation religieuse. Les Juifs ne peuvent se lier avec un païen, ni entrer chez lui, et Pierre va le dire. Je n'avais pas le droit d'entrer chez un païen. Dieu va utiliser les grands moyens pour faire bouger Pierre, qui va se retrouver à séjourner et à manger dans une maison de païens, et qui plus est avec un officier de l'armée d'occupation. Poussé par le Saint-Esprit, Pierre surmonte les barrières théologiques, éthiques, culturelles, mentales. Le Saint-Esprit est donné à ces païens qui se font baptiser, signe de leur intégration dans l'Église. Pierre a donc dû entrer dans la maison d'un païen, il a dû entrer dans le monde d'un païen, il y a séjourné dans cette maison, il a mangé avec des païens, il y a eu rencontre véritable, en profondeur, rencontre qui a transformé Pierre. Aujourd'hui, je crois beaucoup à la vertu des repas partagés. Pas forcément de super repas gastronomiques, mais des repas simples. Dans le cadre de l'Église, les repas communautaires, des repas où on est simplement debout et on peut aller à la rencontre naturellement, y compris de ceux dont on est le plus éloigné, culturellement ou théologiquement. Nos églises font bien de pratiquer cela et de proposer ces occasions toutes naturelles de repas communautaires. Et puis, il faut encourager les invitations dans nos maisons et dans nos foyers autour des tables. Quand on a pénétré dans l'intimité de la maison de celui ou de celle qui nous agace, quand on a partagé le repas à qui ou elle a préparé, quelque chose bouge, souvent. La rencontre véritable. Cinquième stratégie, la représentativité des responsables dans acte 6 et acte 13. Dans acte 6, tout d'abord, c'est le texte bien connu de l'établissement des diacres en faveur des veuves de langue grecque. L'Église de Jérusalem désigne des responsables de cette culture-là, des gens qui parlent le grec. Et ils le font consciemment et délibérément. Les diacres en charge du travail sont issus de la culture en question. Les responsables représentent la culture en question. De même à l'église d'Antioche, c'est dans acte 13, qui est la première église multiculturelle, les responsables chrétiens sont eux-mêmes multiculturels. Lisons le premier verset d'acte 13. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres, Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Une équipe de responsables multiculturels dans cette église multiculturelle. Il y a par exemple Barnabé qui est un juif du pays, il y a Saul qui est un juif de la diaspora, il y a peut-être un noir, Siméon appelé Niger, il y a un africain, Lucius de Cyrène, Cyrène qui se trouve en Libye actuelle, et il y a un ex-proche du pouvoir politique, Manaen. Une représentativité dans l'équipe de responsables de la variété culturelle de l'église d'Antioche. Nous disons souvent, je crois, que nos équipes pastorales, nos groupes de responsables aujourd'hui, se doivent être des modèles de relations et de fonctionnement pour l'Assemblée. Ces équipes de responsables devraient être le modèle d'un bon fonctionnement pour l'Assemblée. C'est aussi vrai de la représentativité des cultures, des couleurs de peau, des spiritualités, des âges qui devraient être représentés dans une équipe de responsables. Je crois que ça favorise l'intégration. Je termine avec quelques réflexions finales. Je suis frappé par le fait que les différentes stratégies ou manières de favoriser l'intégration reposent à chaque fois, ou presque, sur un fondement théologique, ou plutôt christologique, c'est-à-dire il y a une référence à Jésus-Christ qui fonde la pratique. C'est donc pas juste ces stratégies, une manière de réguler le vivre ensemble le mieux possible. Ces stratégies se fondent sur une vérité, sur des convictions, sur une compréhension de l'Évangile, une compréhension de l'œuvre du Christ qui rassemble, qui intègre. C'est des stratégies qui reposent sur une certaine vision de l'Église. comme lieu d'intégration. Donc l'intégration plus, selon la Bible, ce n'est pas une paix molle. Ce n'est pas non plus le fait d'être gentils les uns avec les autres, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent. L'intégration plus, ce n'est pas seulement cela. Il s'agit en fait, avec l'intégration plus, de mettre en œuvre quelque chose du monde nouveau que le Christ est venu introduire et dont l'Église doit être aussi. Pour le dire autrement, comme dans la société, c'est les réflexions de début, comme dans la société, il y a un cadre pour l'intégration, le respect d'une égalité de droits et de devoirs, dans l'Église, l'intégration comprend un cadre théologique, christologique, centré sur Jésus-Christ. On pourrait dire que dans l'Église, l'intégration est maximale. Elle est vraiment, il n'y a qu'à penser aussi à la vision du livre de l'Apocalypse, où devant le trône, il y a des gens de toute culture, de toute race, de tout peuple, de toute ethnie. L'intégration plus, c'est l'intégration la plus large, bien plus large que ne peut le faire un État ou une société ou un pays. Mais elle passe par la confession de foi au Christ selon les Écritures. Au nom de l'intégration, donc, qui est très vaste, on ne peut pourtant pas tolérer n'importe quoi. Il y a des pensées et des pratiques qui s'éloignent de la vérité qui est en Jésus-Christ. Par exemple, intégrer un discours et une pratique raciste, ça ne marche pas dans l'Église de Jésus-Christ. On est en contradiction avec le fondement. Ou bien encore, légitimer une pratique culturelle sous couvert d'égoïsme, il ne faut pas intégrer ça. Et donc on sent bien qu'il y a une tension entre l'intégration maximale et le cadre centré sur Jésus-Christ pour cette intégration. Alors comment déterminer ce qui est intégrable ou pas comme différence sociale, culturelle, générationnelle, raciale? Alors bien sûr, comment savoir où est la limite? Bien sûr, par les Écritures, par l'étude des Écritures. Mais on le sait, dès qu'on ouvre la Bible, on ne la comprend pas tous de la même manière. Alors, je crois que pour nous, responsables au sein des églises mennonites, la confession de foi de nos églises peut servir comme un cadre actualisé à l'intégration. Pourquoi? Parce qu'elle exprime jusqu'à nouvel avis notre compréhension commune, pas individuelle, mais commune, de l'œuvre du Christ et de ses implications. Alors bien sûr, notre confession de foi ne règle pas tout, bien sûr, et heureusement, parce qu'il reste la place pour une large diversité très importante entre nos assemblées et au sein de celles-ci. Mais elle fournit, cette confession de foi, les éléments communs et principaux sur lesquels nous sommes d'accord, entre autres sur une intégration fondée en Jésus-Christ qui s'appelle communion shalom. Je termine, cette fois pour de bon. La vidéo disait « La France résonne de tous les accents du monde. » La France résonne de tous les accents du monde. Pour paraphraser et dépasser le vidéoclip, je dirais « En Jésus-Christ, le royaume de Dieu résonne de toutes les langues et de toutes les cultures du monde. » Alors que l'Église et que nos assemblées en soient le signe. Amen.
Voilà, merci beaucoup Michel. Le thème est bien lancé, avec déjà pas mal de choses qui doivent remuer dans nos esprits. C'est pas encore le temps.